Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Washington. C'est la tempête de la semaine, Donald Trump renvoie le patron du FBI. Raqqa, la bataille pour reprendre la capitale de l'État islamique se prépare-t-elle? Les États-Unis décident d'armer les Kurdes de Syrie. Séoul, c'est le fils de réfugiés nord-coréens qui va diriger maintenant la Corée du Sud. Il se dit prêt à rejoindre Pyongyang. Et puis Gaza, Ismaël Haniyeh, nouveau chef du Hamas, qui apparemment adopte une position moins radicale contre Israël. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Bruno Tertrais qui est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour. Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et qui fait paraître cette semaine même la revanche de l'histoire, l'histoire qui revient pour justifier en quelque sorte le présent. On parlera aussi beaucoup des nationalismes, ça et là. On reviendra sur le livre de Bruno Tertrais, eh bien, au cours de 7 jours dans le monde. Eduardo Cue est avec nous. Bonjour Eduardo.
Bonjour Fabrice.
Journaliste américain, chroniqueur international. Justement, je vous le disais, c'est l'affaire de la semaine, hein, et dont on va encore probablement longtemps parler, tant les faits sont rares, tant les faits sont soudains. Le limogeage par Donald Trump du directeur du FBI, alors qu'il supervisait une enquête très sensible de sécurité nationale sur les liens éventuels entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie, accusée d'avoir interféré, vous le savez, dans la présidentielle américaine. Alors officiellement, James Comey est sorti pour la façon dont il a géré le dossier des emails privés d'Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, en dévoilant à la presse des détails de l'enquête. Alors que disait justement Donald Trump dans un premier temps, justement, pour justifier le limogeage de Comey? On l'écoute.
Pourquoi avez-vous limogé James Comey?
Il ne faisait pas du bon travail. C'est très simple. Il ne faisait pas du bon travail.
Ah, il faisait pas du bon travail, James Comey. Ouais, alors, sauf qu'il y a quand même plusieurs versions différentes depuis le début de la semaine, de la part de Donald Trump. Alors, dans un premier temps, on nous dit qu'il a été viré sur recommandation du ministre de la Justice. Dans un second temps, on nous dit que Donald Trump voulait le sortir depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Bruno Tertrais, c'est quoi les raisons exactes, les raisons profondes du limogeage de James Comey?
Les raisons profondes sont probablement à aller chercher dans la manière dont l'équipe de Trump s'inquiète sur les enquêtes qui ont lieu actuellement dans l'administration américaine et notamment au FBI entre la campagne de Donald Trump et les réseaux russes. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire que finalement c'est bien Vladimir Poutine qui a fait élire Donald Trump, mais simplement il y a tout un tas de fils que le FBI et d'autres agences sont en train de tirer et qui révèlent que ces liens sont profonds. On en parle, ça va empoisonner je pense que ça va empoisonner toute la présidence de Trump.
Ah non, carrément, mais c'est ce que là, vous dites là, alors qu'on en est qu'au début de la présidence de Trump.
On en est qu'au début, mais c'est peut-être bientôt la fin aussi. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va démissionner. Non, il ne va pas démissionner. Mais le limogeage du FBI pourrait être interprété comme une obstruction à la justice. Si c'est le cas, le Congrès pourrait lancer, de toute façon, je pense qu'il va lancer sa propre enquête, et pourrait lancer éventuellement une procédure. Ça durerait dans tous les cas des mois, mais ce qui est certain, c'est que tout ça pollue déjà énormément la manière dont l'administration Trump gouverne. Ce n'est malheureusement peut-être que le début. En tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle ni pour les États-Unis ni pour le monde.
Juste pour continuer, Trump apparemment aussi avait demandé à Comey s'il était personnellement visé par l'enquête en cours du FBI. Non, lui avait répondu le directeur du FBI. Le fait même d'avoir posé cette question, d'avoir obtenu une réponse, c'est une ingérence dans le cours de la justice. Alors on va poser la question clairement, qui va fâcher certains. Il pourrait être menacé d'impeachment, Donald Trump, à cause de ça ou pas?
Aujourd'hui, oui, on peut le dire.
Oui, vous le dites.
Attention, en prenant vos termes exacts, à savoir, il pourrait être menacé d'impeachment. Encore une fois, on n'en est pas là. Si la procédure était lancée, ça serait très long et très lourd. Mais dans tous les cas, dès aujourd'hui, on peut dire que cette affaire va être un poison pour l'administration Trump. L'affaire de l'ombre de la Russie, si vous voulez, va être un poison pour l'administration Trump tout au long de son mandat, quelle que soit la durée de celui-ci.
Ouais, bien sûr, Eduardo Cue, vous êtes journaliste américain, vous êtes chroniqueur international. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un fait rarissime, le fait de renvoyer comme ça le directeur du FBI. Bill Clinton l'avait fait en 93, mais pour des tout autres raisons. Apparemment, à l'époque, M. William Sessions utilisait des jets à des fins privées, c'est pour ça qu'il a été sanctionné. sinon ça ne s'est jamais vu.
Non, ça ne s'est fait pas, justement. Le Congrès a donné un mandat de 10 ans au directeur du FBI pour des raisons, d'abord pour qu'il ait le temps et l'indépendance, mais aussi pour éviter un deuxième à J. Edgar Hoover, voilà. Donc le fameux directeur du FBI qui est resté sur place une quarantaine d'années.
Il a connu 8 présidents Hoover, hein,
Absolument, il connaissait tous les secrets de Washington, personne n'osait, aucun président osait les toucher.
Intouchable.
Et donc voilà pourquoi on a donné ce mandat très long de 10 ans au directeur du FBI. Ce qui est étonnant de cette histoire, c'est que Trump, il s'est carrément trompé. Il croyait que les démocrates allaient soutenir le virement de Comey parce que Comey avait déclenché les investigations sur les serveurs privés des courriels de Hillary Clinton. Mais c'est vraiment une ingérence dans le système, pas judiciaire peut-être, mais des systèmes d'investigation du FBI. Et je suis tout à fait d'accord, c'est une situation qui sent très mauvais. Ça sentit mauvais depuis le début. Et puis si jamais il y a des liens établis entre la campagne de Trump ou Trump lui-même et Moscou pendant la campagne présidentielle, alors là, à mon avis, il y aura une procédure d'impeachment, mais on est loin d'être là. Pour l'instant, il y a déjà des commissions du Congrès qui sont en train de faire des investigations là-dessus, mais ce qu'on appelle, y compris des républicains aujourd'hui, ils s'appellent pour nommer un procureur spécial pour mener une investigation indépendante.
Oui, c'est vrai, Bruno Terfait, comment l'enquête va-t-elle pouvoir se poursuivre, hein, continuer pour savoir s'il y a eu des ingérences russes dans la campagne présidentielle, pour savoir s'il y avait une collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump. Pour l'instant, le patron du FBI, il n'est plus là. Qui prend la suite ?
Je ne sais pas qui va. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais ce qui est certain, c'est qu'on a vu depuis le début de la présidence de Trump que les contre-pouvoirs américains, ils étaient là, dans la justice, dans le journalisme, dans les services de renseignement aussi. Autrement dit, ce n'est pas parce que M. Trump limoge le directeur du FBI que tout va s'arrêter. Au contraire, j'allais dire que ça allait presque donner envie à beaucoup de gens dans le journalisme, et dans le système judiciaire aussi, de tirer encore un peu plus.
Et à l'intérieur du FBI aussi.
À l'intérieur du FBI,
il y aura des fuites dans les semaines à venir, c'est clair.
On peut rappeler quand même que la dernière fois qu'un président américain a été inquiété par un procureur spécial, oui, c'était Bill Clinton, oui, et que c'est allé jusqu'à la première phase.
Le procureur Kenneth Starr de mémoire, c'est ça?
Oui, absolument, Kenneth Starr, et que c'est allé jusqu'au début de la procédure d'impeachment, on a un petit peu oublié.
C'était l'affaire Monica Lewinsky.
L'affaire Monica Lewinsky, tout à fait.
Parce que Kenneth Starr était déjà intervenu, mais dans une autre affaire qui liait Bill Clinton dans l'Arkansas directement. Oui. Les vieux ennemis qui se sont retrouvés. Limogeage politique, coup de force quand même, on peut le dire, ça ou pas?
Et dans des circonstances qu'il faut quand même rappeler, au moment où le limogeage est annoncé, M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, arrive dans le bureau ovale. Les photographes de l'agence TASS, de l'agence russe, sont là. M. Lavrov, sur le chemin de la Maison Blanche, dit « C'est pas vrai, il a été limogé, quelle surprise !» Tout ça, on dirait presque du théâtre.
Une affaire interne, disait le Kremlin.
Une mauvaise pièce de théâtre.
Édouard Ocuet.
Oui, c'est incroyable ce qui se passe à Washington. Trump n'avait pas permis les photographes américains d'accéder au bureau ovale.
Pourquoi c'était qu'un photographe de l'agence TASS?
Parce qu'en principe, ils ont dit que c'était des photos qui ne devraient pas être rendues publiques.
Finalement, faire confiance aux Russes sur ce temps-là, c'est soit de la naïveté, soit de la complicité. C'est
pourquoi
pas possible.
Ne pas laisser des photographes américains entrer dans le bureau ovale, comme ça s'est fait presque tous les jours. On dirait vraiment des amateurs qui ne savent pas du tout à ce qu'ils font et que les grands problèmes de cette affaire, c'est que ça risque d'empêcher les réformes que Trump et les républicains voulaient faire passer au Congrès, en commençant par la réforme des impôts.
Oui, réforme fiscale, bien sûr. Réforme fiscale. Avec le taux de société abaissé à 15%.
Et donc aujourd'hui, le Congrès commence à se trouver absolument bloqué et on risque d'avoir une présidence bloquée.
Vous avez raison, Eduardo Cué, et moi au Congrès, y compris dans le camp républicain, ce que vous disiez tout à l'heure, Eduardo, et on a même vu la bourse de New York, s'émouvoir très faiblement, mais enfin s'émouvoir quand même au moment de la l'annonce du limogeage de James Comey, le patron du FBI, justement pour souligner, marquer à sa façon les marchés, le caractère imprévisible de Trump. Hein.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Eduardo. Quelle que soit, encore une fois, la suite des événements, il y a déjà des effets politiques, il y a déjà des effets psychologiques, et donc indirectement, il y aura aussi des effets économiques, parce que s'ouvre une période d'incertitude, s'ouvre une période... pas de paralysie, mais en tout cas d'impuissance relative de l'administration qui va être occupée à autre chose. Donc, dans tous les cas, ça n'est pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça n'est pas bon pour les États-Unis, ça n'est pas bon pour le monde non plus, parce que quelles que soient les décisions américaines, on a besoin d'une administration américaine qui sait où il va pour que nous on puisse réagir, approuver, coopérer ou pas, se confronter quand c'est nécessaire. Mais la pire des choses pour l'Amérique et pour le monde, c'est une administration américaine qui donne le sentiment qu'elle est occupée à autre chose ou qu'elle ne sait pas où elle va.
Ou que Trump, tout simplement, n'arrive pas à se contrôler lui-même. Parce que il paraît qu'il a été vraiment fâché quand Comey, la semaine dernière, a dit devant le Congrès qu'il était un peu nocieux à l'idée qu'il avait empêché la victoire de Hillary Clinton. À cause de... qu'il
avait
un peu le vertige.
Le vertige nauséeux, voilà.
Nauséeux, un peu le vertige quand on lui critiquait d'avoir empêché la victoire de Hillary Clinton à cause de l'histoire des courriels.
Des emails, ouais.
Et il paraît que Trump a pris ça très très mal, d'une façon très personnelle, que c'était un attaque contre sa légitimité. Okay. Trump, il est obsédé par sa légitimité. Il est bien le seul, mais il est obsédé par sa légitimité. Il a été très fâché. Il a décidé de virer Comey. Il agit comme ça. C'est quand même très dangereux.
Bruno Tertrais, vous qui connaissez très très bien les services de renseignement américains, il y a une guerre quand même, j'ai l'impression, depuis qu'il est arrivé. En tout cas, même depuis qu'il a été élu au mois de novembre, entre lui et les services d'enseignement CIA et FBI.
Je ne suis pas sûr qu'il faille appeler ça une guerre.
Alors, comment dire ça? Une défiance peut-être. Il les a critiqués ouvertement
quand
même.
Voilà. Tout à fait. Je dirais un manque de confiance.
Ouais. Ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas.
Bien sûr.
Ça n'est jamais bon qu'un responsable politique, quel qu'il soit, dans quelque pays que ce soit, n'ait pas une relation de confiance avec ce domaine extrêmement particulier qui demande justement des relations de confiance, surtout en ce moment. Maintenant, parler de guerre me semble un peu excessif. D'accord. Encore une fois, les services de renseignement américains sont des gens qui sont des légitimistes et qui travaillent pour le président, quel qu'il soit. Mais enfin, ils vont peut-être plus ou moins bien travailler. Et encore une fois, la relation de confiance, elle est indispensable.
Vous pensez qu'il a été... Allez-y.
Simplement. L'indépendance aussi, et ça, c'est quand même une bonne chose. Vous vous souvenez que pendant l'affaire irakienne en 2001, 2002, 2003, on reprochait aux services de renseignement américains, la CIA notamment, d'être trop contrôlés, en tout cas de faire exactement, de donner les éléments de langage que l'administration américaine attendait. C'était pas sain non plus.
Non.
Mais ça n'est pas sain, à l'inverse, qu'il y ait une absence totale de confiance entre les services et l'administration.
Bah, voilà, pile ce que je voulais vous demander, ça tombe bien, vous y avez répondu. On parlait de Lavrov tout à l'heure quand même, juste un mot, hein. Il était dans le bureau ovale de Donald Trump, donc en milieu de semaine. Au-delà de cette affaire, est-ce qu'il y a un début ou pas de rapprochement entre les États-Unis et la Russie, suite un peu à la brouille du mois d'avril avec l'attaque américaine contre une base syrienne, et puis le sort de Bachar al-Assad, toujours en suspens.
Hein. Je ne parlerai pas en ces termes. Je dirais que la relation devait, jusqu'à l'affaire Comey, devait repartir sur une nouvelle base qui était celle du rapport de force. Parce qu'avec les 59 missiles tirés sur la Syrie, Donald Trump a réussi à surprendre, à mon avis dans le bon sens, les Russes, qui se méfient du coup. Et il a réussi à rétablir une sorte de rapport de force vis-à-vis d'une administration russe qui avait un petit peu tendance à considérer qu'il était dans leur poche, peut-être dans tous les sens du terme. Donc voilà, et ça c'était plutôt une bonne chose. Hein. C'était bien joué de la part de Trump, quoi qu'on puisse penser de l'impact sur le terrain. Mais l'affaire Comey, à cause de ses ramifications multiples du côté russe, vient de nouveau rebattre les cartes dans le dossier de la relation bilatérale.
Un mot, Edouard Ocué.
Tout le monde sait que les Russes étaient très très contents de l'élection de Trump et qu'ils croyaient qu'il l'avait dans la poche. Cette histoire des missiles en Syrie a changé la donne. Mais moi, je pense que cette relation entre Moscou et Washington sera toujours très très difficile parce que les intérêts des deux pays ne sont pas les mêmes sur plusieurs plans. Et donc, ça sera très difficile. Et encore une fois, ça plane cette histoire de l'élection présidentielle, et donc ça risque d'envenimer les relations.
À suivre. Bon, la Syrie, justement, où les États-Unis décident de s'investir davantage en armant leurs alliés Kurdes, les Kurdes de Syrie, annonce faite à une semaine de la visite aux États-Unis du président turc Erdogan, pas du tout content évidemment de cette décision de Donald Trump.
Mon vœu le plus cher est que les États-Unis reviennent sur cette erreur sans délai.
Voilà, voilà, c'est clair, il demande à ce que Washington revienne sur sa position. Bruno Tertrais, de quelles armes parle-t-on? Et puis, à qui vont-elles être envoyées ces armes, justement, ces Kurdes de Syrie?
Je ne connais pas la nature exacte des matériels militaires qui vont être livrés aux Kurdes de Syrie, mais...
On parle d'armes légères, de munitions, de véhicules blindés, voilà. Rien de...
Ça ne sera pas non plus des chars d'assaut.
C'est ça,
ni,
voilà.
Ni des avions de combat. Bon, ce qui est sûr, c'est deux choses. Un, les Kurdes du YPG sont des gens sérieux. Hein, ce sont eux qui ont été à la pointe du combat contre Daesh et aussi qui jouent leur propre jeu, bien sûr, en Syrie. C'est un allié incontournable pour les pays occidentaux dès lors que l'on cherche à regagner du terrain en Syrie et que l'on prépare la fameuse bataille de Raqqa, à savoir la reconquête de la capitale symbolique de Daesh. La deuxième chose qui est certaine, qui est tout aussi certaine, c'est que pour Erdogan, c'est presque à la limite de la trahison. Ça fait longtemps ce contentieux entre Washington et Ankara existe, bien sûr, à propos des Kurdes, parce que le YPG sur place a des liens avec les indépendantistes turcs en Turquie. Et on est là au cœur du dilemme fondamental des États-Unis vis-à-vis de la Turquie et de la relative fragilité de cette alliance entre l'Amérique et la Turquie, parce que ça a toujours été un pilier depuis 1945 de la sécurité européenne vue de Washington. Mais là, on atteint vraiment le grand écart. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Moi, je dis toujours, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que la Turquie est encore dans l'OTAN, alors que l'OTAN est censé réunir des nations qui ont soit les intérêts, soit les mêmes valeurs, de préférence les deux, mais au moins l'un des deux. Avec la Turquie, on peut vraiment se demander si l'Amérique et l'Europe, d'ailleurs, ont encore des intérêts et des valeurs en commun.
Édouard Ocué, quand on écoute Bruno Tertrais, ces miliciens kurdes, hein, ces soldats kurdes, des YPG, c'est-à-dire ce groupe kurde de Syrie, sont les mieux à même pour combattre, pour reprendre Raqqa, il n'y a pas toujours eu de la confiance avec les États-Unis. Obama, il s'était refusé longtemps à les soutenir, justement, parce qu'il les trouvait beaucoup trop liés au PKK, le parti communiste du Kurdistan, donc en guerre contre Ankara.
Il y a ces dangers, c'est clair, c'est la raison pour laquelle Washington a mis un point pour dire que les armements sont légers, des mitraillettes, des munitions très légères.
D'accord.
Et que de toute façon, ils iront d'abord aux combattants arabes et pas kurdes. Mais la Maison Blanche a beaucoup hésité avant de se mettre d'accord pour envoyer ces armements. Mais le Pentagone a mis la pression et il a dit il faut vraiment les aider, sinon on ne prendra pas Raqqa. Et ça, Donald Trump, il a mis la anéantissement de l'État islamique comme une grande priorité. Ouais. Il est déterminé à les combattre. Et donc, c'est pour ça. Mais c'est absolument vrai. Il y a l'histoire de l'Afghanistan, quand les États-Unis, dans les années 80, avaient aidé les
Moudjahidines.
Moudjahidines.
Voilà.
Qui se sont par la suite, comme
radicalisés,
qui sont devenus Al-Qaïda. Ouais. Donc, il y a ces problèmes.
Ce risque. Enfin, en tout cas, Washington a dit les milices kurdes n'ont pas vocation à rester dans la région après la libération de Raqqa.
Voilà,
à voir, bien entendu.
À voir, justement.
Bruno Tertrais, juste un mot quand même sur La Revanche de l'Histoire. Hein. C'est votre dernier opus que vous publiez. Revanche de l'Histoire, justement, qui revient, qui sert un peu à expliquer le comportement des uns des autres aujourd'hui. Vous citez donc le retour de l'Iran, les nationalismes qui reviennent, la Hongrie qui distribue des passeports aux Hongrois de l'étranger, les revendications chinoises sur les îles en mer de Chine, on en reparlera tout à l'heure. Et puis donc Daesh, voilà, restauration du califat, l'idée d'éliminer aussi les frontières nées de l'après Première Guerre mondiale, le retour de la Turquie. Tout ça est bien pratique, l'histoire, aux yeux de certains.
Tous les grands acteurs dont nous avons parlé dans les 20 dernières minutes utilisent, instrumentalisent, parfois glorifient leur passé, un passé qui est souvent recomposé, un passé qui est souvent mythique, mais un passé qui sert à les légitimer. Donald Trump, pour commencer. Donald Trump, il dit « Ah, il faut en revenir au temps béni de l'Amérique des années 50, pour faire simple, où c'était une Amérique blanche qui contrôlait ses frontières. Hein. » Je simplifie à outrance, à dessein. Erdogan parle des traités iniques, selon ses termes, qui ont imposé que le territoire de la Turquie soit réduit, imposé par les vainqueurs du conflit mondial. Mmh. Vladimir Poutine, il annexe la Crimée en disant « C'est là qu'a eu lieu le baptême de Vladimir, c'est là qu'est née la Russie. » Vladimir Poutine qui, il y a quelques jours, faisait encore une fois défiler l'armée russe pour célébrer la victoire contre le nazisme, ce qui est légitime. Ce qui est moins légitime, c'est qu'il prétend que le combat en Ukraine, c'est un combat de nouveau contre des nazis. Voilà. Et Daesh, enfin, vous en avez parlé. Tous ces acteurs instrumentalisent l'histoire à leur profit, mais derrière cela, il y a deux phénomènes différents, en fait. En Occident, la mondialisation fait peur, le progrès va trop vite, donc on a besoin de racines, de s'ancrer davantage dans notre passé. C'est quand même pas un hasard si, dans la campagne présidentielle, les deux candidats qui ont le plus parlé du passé de la France, à savoir François Fillon et Marine Le Pen, ont quand même fait 40% à eux deux. Hein, alors que dans les pays émergents ou réémergents, dans les puissances régionales, là il s'agit plutôt d'utiliser le nationalisme comme idéologie de substitution au communisme, d'utiliser aussi l'islamisme comme idéologie de substitution au panarabisme que l'on voyait avant, et toutes ces nouvelles idéologies, ou ces idéologies qui refont surface, qui reprennent du poil de la bête, elles utilisent le passé, c'est donc une sorte de revanche du passé qui est à l'œuvre à la fois en Occident et dans le reste du monde.
Revanche de l'histoire, signé Bruno Tertrais, vous mettez même en avant la revanche des passions. On y reviendra justement. Juste encore un mot, hein, puisqu'on parlait de l'État islamique, la lutte qui se poursuit avec le chef de la branche afghane qui a été tué donc il y a une quinzaine de jours par les forces spéciales afghanes et forces spéciales américaines dans l'est du pays. Bruno Tertrais, l'État islamique, il est apparu en 2015 en Afghanistan. C'est quoi son influence, son pouvoir justement, un peu état des lieux versus les talibans qui commettent des attentats quasi quotidiennement?
Oui, écoutez, moi quand j'étais en Afghanistan il y a 6 mois, l'État islamique était considéré comme un problème nouveau dans un pays qui n'en avait pas besoin, mais qui n'était pas, ou pas encore en tout cas, une force majeure, contrairement aux talibans qui contrôlent un bon tiers du territoire. C'est un jeu troublant, c'est toujours troublant en Afghanistan, et on parle toujours de grands jeux, désolé pour le cliché historique. D'ailleurs,
sûr,
le grand retour des clichés historiques aussi.
La revanche de l'histoire, y compris en Afghanistan.
J'en parle aussi dans le livre, c'est toujours un festival d'Afghanistan, le tombeau des empires, le grand jeu, etc. Bon, bref, tout ça pour dire que l'Afghanistan n'avait pas besoin de ça. L'État islamique, le Khorasan, comme ça s'appelle là-bas, du nom d'une région mythique d'Asie centrale, est à la fois un allié et un concurrent des talibans. Hein, chacun joue un jeu compliqué. Vous savez, vis-à-vis des talibans, les Russes les combattent et sont alliés en même temps. Les Chinois les combattent mais sont alliés en même temps. C'est un jeu extrêmement complexe. On va dire que, évidemment, ça n'est pas une bonne nouvelle. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et hélas, ça rend les espoirs de stabilisation de ce pays encore plus douteux. Et il est à craindre que les États-Unis soient une fois de plus... On passe de s'impliquer.
Bien sûr, je dis
à craindre.
L'OTAN examine l'envoi de quelques milliers de soldats supplémentaires. Alors, ce ne sont pas forcément des Américains. Hein.
Non, soyons clairs. Je pense que c'est normal et souhaitable qu'on continue à aider ce pays. Mais quel désastre tout de même en termes de coût-efficacité. Ça donne vraiment à s'interroger sur le coût-efficacité des interventions militaires. Et en même temps, on n'a pas tellement le choix parce que laisser tomber une nouvelle fois l'Afghanistan, c'est prendre le risque que ça soit de nouveau un foyer de terrorisme mondial.
7 jours dans le monde qui va reprendre dans un instant avec Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, avec le journaliste américain Eduardo Cué. Gros plan sur la Corée du Sud. C'est un homme venu du Nord, justement, qui va diriger le pays. Il se dit prêt, d'ailleurs, à rencontrer Kim Jong-un, à aller à Pyongyang. Rendez-vous dans un instant sur BFM Business, à la télé et à la radio.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et toujours avec Bruno Tertrais, qui est avec nous, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui vous propose pour ce week-end son tout nouvel opus, La Revanche de l'Histoire. Et également avec nous pour nous accompagner sur BFM Business, Eduardo Cué, journaliste américain, chroniqueur international. Scrutin présidentiel un petit peu partout, pas que chez nous, hein, vous le savez. En Corée du Sud aussi, c'était mardi, hein, quelques semaines après la destitution de la présidente, hein, dans une affaire de corruption. Vous vous en souvenez, il y avait des centaines de milliers de manifestants qui avaient défilé chaque week-end dans les rues des grandes villes, notamment à Séoul. Victoire d'un ancien avocat, défenseur des droits de l'homme, proche d'un ancien président de centre-gauche, c'est Moon Jae-in, il a 64 ans.
C'est une grande victoire d'un grand peuple pour créer un pays de justice, une nation unie et une nation où les règles et le bon sens prévalent. Je ne regarderai que le peuple pour l'emmener sur le bon chemin. Je serai un président fier d'une Corée du Sud grande, fière et confiante.
Voilà, le nouveau président Moon, Eduardo Cué, hein, s'il a été élu, déjà, ce qu'on va dire, c'est en réaction à l'argent. L'argent qui corrompt celui à l'origine de la destitution de la présidente PAC. Il dit comprendre les petits, hein, cet avocat, plutôt à gauche. Hein.
Tout à fait, c'est vraiment, ça met fin à des années de pouvoir des conservateurs dans une société qui est quand même assez déchirée. Oui. La jeunesse ne s'y retrouve plus, trouve pas de travail, voit pas d'avenir. Il va falloir réformer plus ou moins en profondeur, je pense, surtout à ce qui concerne les grands groupes comme Samsung.
Les chaebol, voilà, justement. Il veut limiter le pouvoir de ces grands conglomérats, les fameux chaebol, c'est Samsung, c'est LG, etc.
Tout à fait.
Hyundai.
Ceci dit, ce n'est pas une rupture non plus. Hein. Mmh. Ça va changer au niveau intérieur, au niveau de l'économie. Il faut qu'il crée de l'emploi. Il y a un taux de chômage quand même très important, surtout parmi les jeunes, comme je dis, en Corée du Sud. Et donc, c'est un pays qui cherche à se trouver quelque part, cherche à prendre en main son destin. Il y a l'impression, les Sud-Coréens ont l'impression que leur destin ne les appartient pas. C'est un destin qui est géré à la fois par les États-Unis et peut-être aussi par la Chine quelque part, et qu'ils veulent prendre ce destin en main. Mais le grand problème pour faire ça, c'est la Corée du Nord.
Justement, alors il vient d'une origine modeste, il l'a beaucoup raconté durant la campagne, fils de paysans réfugiés venus du Nord, hein, pendant la guerre de 1950, justement. Alors, est-ce qu'il va en jouer, peut-être, je ne sais pas, parce que sitôt sa prestation de serment, que disait-il? Il veut être le président d'une péninsule coréenne pacifié, je me rendrai à Pyongyang si les conditions sont réunies. Bruno Tertrais, le dernier à y être allé, c'était en 2007, c'était le président Ro, hein, dont Moon d'ailleurs était le directeur de cabinet. S'il va en Corée du Nord, c'est pour parler de quoi ?
C'est d'abord pour le faire, c'est d'abord pour le geste.
D'accord.
C'est d'abord un geste aussi envers les familles qui ont été déchirées par la guerre, et ces séquelles sont encore très présentes en Corée du Sud et du Nord. Donc c'est d'abord pour essayer de faire un geste psychologique dans une région dans laquelle, comme beaucoup d'autres régions dans le monde, ça compte énormément. Alors la question, c'est de savoir plutôt comment est-ce que les Nord-Coréens vont percevoir ce geste. Comme un geste d'ouverture ou comme un geste presque d'asservissement, je dirais, ou plutôt de reconnaissance.
De reconnaissance du régime,
reconnaissance.
Nord-coréen,
il faut toujours rappeler que ce sont deux pays qui sont officiellement, juridiquement,
encore en guerre,
donc ils ne reconnaissent pas l'existence l'un de l'autre. Donc, après tout, pourquoi pas ? Car il n'y a plus de négociations formelles entre les deux pays, ni dans un cadre international. Donc, si un voyage pouvait permettre de créer une nouvelle donne, pourquoi pas ? À condition, bien sûr, que ça soit dans la clarté pour tous, vis-à-vis des États-Unis, de la Chine, vis-à-vis du Japon.
Il faudrait que Trump, par exemple, donne son aval à une telle visite. Il faudrait que la Chine également donne son aval.
Alors, surtout pas. En tout cas, il faut surtout pas que ce président qui se présente comme justement quelqu'un d'un peu plus indépendant.
D'une Corée fière, donc on vient de l'entendre tout de suite,
demande l'aval de qui que ce soit. Et j'espère qu'il n'y aura pas de tweet de Donald Trump disant j'approuve ce voyage, parce que ça serait absolument une catastrophe. Non, ce qui est intéressant, c'est que ça intervient quand même dans un contexte, 6 mois après l'élection de Donald Trump, dans lequel les États-Unis se sont efforcés de donner des gages en termes de solidité de l'alliance entre les deux. Certains parlent déjà de renversement
d'alliance où on verrait Séoul se rapprocher beaucoup plus de Pékin, très franchement, je n'y crois pas. Qu'il y ait de meilleures relations avec la Chine de la part de la Corée du Sud, c'est possible, mais ça n'est pas un jeu à somme nulle, c'est pas des vases communicants, ça sera pas au détriment de l'alliance avec Washington.
C'est un petit peu brouillé avec la Chine en ce moment depuis l'installation sur le territoire sud-coréen de ce bouclier antimissile TAD, hein, et on sait que la Chine, c'est le premier partenaire commercial avec la Corée du Sud, donc l'intérêt, ça serait peut-être qu'il, justement, il se reparle tout ce bon monde.
Mais oui, on peut toujours se reparler, mais le problème, c'est que contrairement à 2007, donc lors de la dernière rencontre entre les présidents de Corée du Sud et celui de Corée du Nord, les pères de l'actuel, les choses ont beaucoup changé, et moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir.
Et les sanctions, elles étaient beaucoup moins fortes à l'époque qu'aujourd'hui. Voilà.
Les sanctions étaient beaucoup moins fortes, mais surtout, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire que la Corée du Nord est vraiment aux portes d'avoir l'arme atomique. Et moi, je pense qu'ils sont pas du tout prêts à laisser ça. Peut-être on peut améliorer les relations, on peut recommencer les pourparlers assis, donc qui sont bloqués depuis un certain nombre d'années, sur un certain nombre de questions, des échanges, l'ouverture de ces sites industriels
de Kaesong.
Kaesong,
c'est vraiment à l'extrême sud de la Corée du Nord, justement. C'est un conglomérat industriel qui a été fermé, justement, à l'initiative donc des
à cause des essais nucléaires de la Corée du Nord.
Voilà, à l'initiative des Sud-Coréens.
Voilà, on pourrait rouvrir ça, à mon avis, ça se fera tôt ou tard, mais sur la question essentielle de la pouvoir nucléaire de Corée du Nord, là, je crois que la Corée du Nord, avec raison, à mon avis, voit ça comme sa survie. Ils ont vu ce qui s'est passé avec Kadhafi, avec l'Iran, on ne sait pas encore ce que ça va donner, cet accord, et je ne pense pas qu'ils soient prêts à dire, bon, d'accord, on va arrêter ces programmes de bombes nucléaires. Vraiment, je ne le crois pas.
Le conglomérat de Kaesong, justement, où sont fabriqués un certain nombre de biens à l'initiative, donc en tout cas pour au service des grands conglomérats sud-coréens. Voilà, c'est fabriqué à bas prix par de la main-d'œuvre nord-coréenne. Tiens, un mot encore sur la revanche de l'histoire, très présente dans cette région, bien entendu, Bruno Tertrais, c'est votre dernier livre. On le disait, donc, ces îlots convoités par la Chine, on voit comment la Chine, justement, au travers de ses revendications territoriales, met en avant l'histoire, justement, en disant « c'est à nous ».
Oui, j'allais dire que c'est aussi le cas sur la péninsule coréenne, où chacun a sa version de l'histoire, où les cicatrices de l'histoire sont véritablement très présentes, surtout dans la zone dite frontalière, la zone dite démilitarisée. Effectivement, l'Asie, c'est un endroit dans lequel les espaces maritimes sont de plus en plus contestés, et pour affirmer les revendications que l'on peut avoir, notamment du côté chinois, sur certains îlots, certaines zones, d'abord pour des questions de principe, et puis après, parfois aussi, pour des raisons économiques, alors on ressort tout un tas de documents, des cartes anciennes. C'est parfois presque comique, on voit les Chinois dire, vous savez, nous avons retrouvé sur cette île des coquillages gravés, et nous, c'est bien la preuve que c'était chez nous il y a 3000 ans.
Ouais.
Ne rions pas, c'est exactement comme cela que les Chinois le présentent, y compris dans les instants les plus officiels. Autrement dit,
c'est Pierre Servant régulièrement qui vient ici dans 7 jours dans le monde, qui nous raconte toujours cette anecdote en disant régulièrement il jette de la céramique, de la vaisselle chinoise, et puis 2 ans, 3 ans après, hop, ils envoient une équipe archéologique. Alors en effet, il y a quelques sédiments, quelques coquillages qui sont greffés dessus en disant, vous avez vu, l'assiette, ça vient de chez nous, donc c'est à nous.
Parfois, effectivement, c'est de la mise en scène. Mais parfois, c'est vrai.
Ouais.
Et il ne faut pas négliger qu'il y ait quand même une certaine honnêteté dans la part de l'appareil chinois, dans cette manière de dire ça a été à nous, donc c'est à nous. Le problème n'est finalement pas tellement de savoir si ces preuves historiques sont fabriquées ou pas. Dans certains cas, elles sont tout à fait authentiques. Le problème, c'est que l'histoire sert de justification à des choses qui, aujourd'hui, ne devraient être gérées que par le droit, la justice, ou la négociation, la politique. L'histoire est devenue le justificatif de tous les grands desseins territoriaux des émergents ou des puissances régionales. Et ça pose problème, parce qu'on ne peut pas, même si l'histoire peut être à l'appui d'une revendication éventuellement, mais ça ne doit pas suffire aujourd'hui, dans un monde qui se veut gouverné par la règle de droit, ça ne doit pas suffire à justifier telle ou telle revendication.
La revanche de l'histoire, écrit par Bruno Tertrais. On va retourner dans cette région troublée du Proche et du Moyen-Orient avec un changement changement de dirigeant également, voilà, beaucoup de changements de dirigeants cette semaine, à la tête du Hamas, le parti islamiste palestinien implanté dans la bande de Gaza. Ismaël Haniyeh, l'ancien premier ministre palestinien, qui succède lors d'un vote interne à Khaled Meshal, à la tête de ce qui est toujours considéré par les États-Unis, par l'Union européenne, comme une organisation terroriste. Hein. Haniyeh, il vit à Gaza, quand Meshal, lui, s'était exilé au Qatar. Edouard Ocuessi, on en parle aujourd'hui dans 7 jours, c'est parce que ce changement de dirigeant pourrait s'accompagner d'un changement de ligne politique, hein, peut-être plus pragmatique, moins radical. Expliquez-nous.
Tout à fait, surtout à ce qui concerne quand ils ont dit, Hamas a dit qu'ils sont pour un État palestinien basé sur les frontières de 1967. C'est-à-dire, ils ne le disent pas, mais implicitement, c'est la reconnaissance d'Israël, peut-être.
Alors, en tout cas, il n'y a toujours pas de reconnaissance d'Israël, mais en effet, ils accepteraient un futur État palestinien qui comprendrait donc la bande de Gaza, la Cisjordanie occupée actuellement, Jérusalem-Est, annexée donc par Israël, mais sans prendre en considération le territoire israélien. C'est-à-dire que là, ils ne veulent plus l'intégrer, quelque part. Alors, c'est une reconnaissance de fait, mais peut-être pas de droit. Hein.
Peut-être voilà. Pas de droit, mais en tout cas, c'est un pas, moi je pense, assez énorme. C'est toujours... C'est la solution de deux États qui ne dit pas son nom. Et aussi, ils ont dit que la destruction d'Israël, c'est toujours un but, mais c'est pas d'actualité, pas pour maintenant, pas une nouvelle guerre. Donc c'est un changement assez important.
Le Hamas dit vouloir mener un combat politique et non plus religieux contre Israël. Bruno Tertrais, la charte fondatrice, ils ont toujours cette charte fondatrice, le Hamas considéré quand même comme antisémite, hein, quand on lit cette charte. La branche armée du Hamas, elle s'est heurtée à plusieurs reprises, trois fois depuis une dizaine d'années à peu près, à Israël, qui maintient la bande de Gaza sous blocus. Qu'est-ce que ça peut induire ensuite comme redécoupage des cartes dans la région vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de l'autorité palestinienne?
Mais pour l'instant, les cartes ne sont pas redécoupées. Je ne suis pas sûr qu'elles le seront. Elles sont peut-être rebattues, mais elles ne sont rebattues, à mon sens, que très légèrement. Et là, je ne partage pas tout à fait l'optimisme d'Eduardo, parce que je pense qu'on a eu un toilettage de la charte dans ses éléments les plus choquants. Mais même après ce toilettage, il reste tout de même des éléments qui ne peuvent pas satisfaire les pays occidentaux qui cherchent une solution juste, pacifique, négociée à la question palestinienne. Notons que le Hamas, à mon sens, n'a pas revendiqué, en tout cas n'a pas changé fondamentalement de position. Il dit simplement, il faut toujours lire les textes, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, nous reconnaissons qu'il existe un consensus politique pour un État palestinien dans le cadre de ce que l'on appelle les frontières de 67. Hein, ça n'est pas un changement de pied total, c'est un petit geste, ça se veut être un petit geste, d'autant plus que, vous avez raison de le souligner, il y a quand même d'autres éléments, certains des plus choquants qui sont partis de la charte.
Pourquoi ce petit geste, à votre avis, Bruno Tertrais?
Probablement parce que le Hamas pense voit qu'il est dans une situation très difficile. Le pouvoir, c'est difficile à exercer. Ça fait 10 ans que le Hamas exerce le pouvoir, dans les faits, à Gaza.
Concurrencé par plus méchant, entre guillemets, qui est le djihad islamique aussi, par exemple.
Oui, par ailleurs, c'est vrai que le Hamas n'est plus en position d'être une des grandes figures, entre guillemets, du djihadisme armé. En tout cas, on parle moins du Hamas que ça n'était le cas il y a 10 ans, par exemple. Il y a, par ailleurs, le fait que ce soit un pays dont les soutiens financiers ne soient pas toujours très bien assurés.
Alors, tout simplement, financier est venu des grands pays sunnites, hein, Qatar, Arabie Saoudite, Égypte aussi.
Écoutez, que le...
On parle de Gaza, là. Hein.
Franchement, que l'Arabie Saoudite et l'Égypte financent directement le Hamas, ça m'étonnerait beaucoup.
D'accord, non, c'est une question, non. Je pensais que...
Non, il y a dans les faits un soutien des frères musulmans et de tous les pays ou organisations qui soutiennent...
Pardon, c'est l'Égypte, en effet, de l'ancien président, bien sûr,
oui,
qui avait été dit de Morsi,
à l'époque,
pardon. Oui, à l'époque, pas du maréchal Sissi. Oui,
à l'époque
pardon,
de Mohamed Morsi, effectivement, bien sûr. Il y avait très clairement un soutien.
Quand vous avez dit frères musulmans, c'est ça qui... J'ai corrigé mon erreur, oui,
voilà,
en effet.
Voilà, tout à fait. C'est aussi un soutien qui est venu de la Syrie, de l'Iran, d'autres pays, parce que c'est pas simplement... On raisonne toujours trop en affaires de sunnites chiites. Dans les faits, dans cette région, c'est souvent plus compliqué. En tout cas, un changement au moins cosmétique, un changement de personnalité. Est-ce que ça préfigure une évolution radicale? Je ne sais pas, mais on n'en est pas encore
à ce qui avait été le cas pour l'OLP en 1988, lorsque Yasser Arafat avait dit la charte c'est caduque. Et on se dirigeait très clairement vers l'acceptation de l'existence de l'État d'Israël. Oui. Le Hamas n'en est pas là, loin de là, et n'a pas renoncé à la lutte armée.
Une famille palestinienne divisée, hein, d'autant plus que Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, maintenant, beaucoup sont l'accusent de corruption, justement. Abbas aussi accusé par Gaza de tarir un peu les fonds de justement de la bande qui est un peu isolée de tout. Hein.
Ben oui,
un mot pour terminer, Eduardo.
Oui, pour revenir très brièvement, je pense que c'est quand même, je ne voulais pas dire que c'est un grand pas, mais c'est, ils veulent sortir, ils sont très isolés là, mais c'est peut-être un pas pour dans la direction d'être un peu plus accepté. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, mais la réaction d'Israël ne se fait pas attendre, ils rejettent ça complètement. Et donc, le chemin est long.
À suivre, justement, quelles conséquences, quel impact de l'élection d'Emmanuel Macron, donc en France, à la présidence de la République, dans les relations internationales, sur le continent européen. On retrouve Bruno Tertrais et Edouard Ocuet.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, et le journaliste américain Eduardo Cuet, chroniqueur international. Week-end de passation de pouvoir donc en France, avec l'arrivée effective à l'Élysée du nouveau président de la République, Emmanuel Macron, à la une évidemment de toutes les télés du monde entier.
Emmanuel Macron wird neuer französischer Präsident. Der parteilose Kandidat hat sich in der Stichwahl deutlich mit einer Zweidrittelmehrheit durchgesetzt gegen Marine Le Pen.
Cách đây một năm thời điểm mà ông Emmanuel Macron ra tranh cử thì không mấy ai tin là ông sẽ làm nên chuyện.
Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции.
Télévision allemande, télévision vietnamienne, télévision russe. Tiens, Eduardo Cuet, quelle image elle a la France depuis une semaine? Depuis dimanche dernier, depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République.
Mais bon, je pense qu'elle a une image absolument excellente. Il y a eu un soulagement en Europe, mais aussi aux États-Unis, je pense autour du monde. Les Français, on les voit comme plus intelligents que les Britanniques et les Américains après le Brexit et l'élection de Trump. Et je pense que ça.
Non, ça fait... c'est un peu par défaut, mais je veux dire, est-ce que le personnage d'Emmanuel Macron inspire, eh bien, donne une nouvelle image au pays, absolument. Inspire de la confiance ou pas, je ne sais pas. Hein.
Oui. Je pense que ça donne une image de jeunesse, une image de renouvellement, une image de vouloir aller de l'avant. Je pense que pour l'image de la France, c'est vraiment excellent. Maintenant, on verra ce qui se passe. L'Allemagne, surtout, est très, très soulagée. Madame Merkel est très contente. Mais en même temps, les Allemands disent, attention, il y a la dette. Il va falloir que la France fasse de véritables réformes et puis ça ne sera pas aussi facile que ça. Et en plus, il y a des divergences entre Berlin et Paris sur Macron veut un Parlement de la zone euro, les Allemands ne veulent pas trop ça, Macron veut que l'Allemagne soit un peu plus flexible sur les déficits, Berlin ne veut pas trop ça. Donc on verra bien ce qui se passe, mais je crois que l'Allemagne de Madame Merkel en tout cas, reconnaît qu'il va falloir donner un coup de pouce à Macron et à la France.
Ils se verront lundi après-midi, déjà, à Berlin, justement. Il y a eu pas mal de coups de téléphone entre Emmanuel Macron et les grands dirigeants du monde entier cette semaine. Puis il y aura vraiment des premiers contacts de visu. Donc en effet, Angela Merkel lundi après-midi, il y aura le sommet de l'OTAN à Bruxelles le 25 mai, le sommet du G7 à Taormina, donc c'était en Italie les jours suivants, le 26 et 27 mai. Ça va être quoi les grands chantiers internationaux d'Emmanuel Macron, nouveau président de la République française? Bruno Tertrais.
D'abord, la poursuite des chantiers existants, ceux que François Hollande est déjà en train de gérer. Par exemple, sauver l'accord de Paris sur le climat face à un président américain qui a décidé de lui faire la peau,
à la COP21, au traité.
À la COP21, mais pas au nouveau président. Ensuite, on en a dit un mot tout à l'heure très brièvement, de savoir quelle va être la contribution française à l'assaut sur Raqqa, la capitale symbolique de l'État islamique en Syrie, et pas que symbolique d'ailleurs. Donc là encore, c'est dans la
continuité. Troisièmement, la série de sommets qui va avoir lieu, qui va permettre d'ailleurs à Emmanuel Macron et à son équipe de plonger tout de suite dans le grand bain, si j'ose dire, c'est toujours les sommets du mois de juin. Il y a l'OTAN, il va y avoir un Conseil européen, il va y avoir le G7, il va y avoir le G20. Bon, tout ça, ça va être de formidables occasions pour cette équipe de se plonger tout de suite, d'abord de connaître leurs interlocuteurs, la connaissance personnelle de leurs interlocuteurs, et de se plonger dedans. Après, il y aura des initiatives qui seront prises. Emmanuel Macron et son équipe laissent entendre qu'il y aura des initiatives, notamment sur la situation moyen-orientale, peut-être sur la Libye, peut-être sur la Syrie. Quelles en seront exactement les formes et les effets, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais ça sera probablement un deuxième temps, parce que pour l'instant, il faut gérer l'agenda diplomatique immédiat qui est celui des sommets, et cet agenda est déjà préparé, parce qu'il est déjà préparé depuis plusieurs semaines.
Ouais, on ne peut pas dire qu'on soit extrêmement familier donc des vues diplomatiques d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il arrive là seulement, donc comme président de la République. Quelle marque il peut donner? C'est quoi sa marque de fabrique sur la scène internationale, justement? C'est-à-dire, on le connaît bien sur l'économie, sur les grands dossiers économiques, les grands dossiers sociétaux également. L'étranger, Bruno Tertrais, vous l'avez cerné un peu ou pas?
Il connaît très bien les questions internationales, économiques et financières,
bien,
pour des raisons évidentes.
Il connaît par cœur.
Premier point. Deuxième point, il connaît beaucoup moins les grands dossiers diplomatiques. Voilà. Il arrive sur ces sujets avec un certain nombre d'instincts, on va les dire, de principes, mais pas de grands projets de politique étrangère très détaillés sur lesquels il a apporté sa marque personnelle. Dans son équipe, ça réfléchit beaucoup depuis longtemps, bien sûr, mais si vous voulez, il n'a pas encore sa propre politique. Il ne l'aura qu'à partir de lundi. Rappelons que sous la Ve République, le président est le véritable chef de la diplomatie, et on ne saura quel type de président il est qu'à partir de lundi, littéralement, parce qu'il ne le sait pas encore, par définition, il ne peut le savoir que quand il aura véritablement investi cette charge, c'est vrai dans le domaine militaire également. Troisième et dernier point, il y a quand même certains mots, certaines expressions, certaines phrases, certains concepts qui reviennent dans la bouche ou sous la plume d'Emmanuel Macron. Il dit qu'il veut être fidèle à l'héritage du général de Gaulle et de François Mitterrand. Il a une vision plutôt traditionnelle, en tout cas qui se veut traditionnelle, de la place du rôle de la France dans le monde face à Moscou et Washington. Parfois, d'ailleurs, me semble-t-il, au risque d'exagérer un petit peu, de mythifier ce qu'a été la politique française au temps de Gaulle, de Pompidou et de Mitterrand. Mais bon, ça, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'il est affirmé d'une manière très traditionnelle, et ça, je crois que c'est très consensuel en France, la nécessité pour Paris de n'être dépendant ni de Washington ni de Moscou. Nous sommes dans un camp occidental. Nous voulons, par exemple, il l'a dit lors du deuxième débat, continuer de coopérer militairement avec Washington chaque fois que cela sera dans les intérêts des deux pays. Voilà, donc il arrive avec un certain nombre de principes et une certaine bonne volonté traditionnelle de la France. On verra exactement ce que ça donne à l'œuvre. Il doit encore se construire lui-même sa propre posture diplomatique.
Il sera plus ou moins interventionniste que François Hollande, par exemple, ou Nicolas Sarkozy?
Tout dans sa posture suggère qu'il le sera moins.
Bon, pourquoi?
Parce qu'il a le sentiment, en tout cas c'est ce qu'il dit publiquement, que les interventions peuvent être de nature soit à déstabiliser certaines régions, soit même à créer par là même du terrorisme. Ce qui, à mon avis, est là encore peut-être un petit peu exagéré, en tout cas simplifier quelque chose d'un peu plus complexe. Mais, je le répète, on ne saura qu'à partir de lundi, lorsqu'il sera pleinement investi de cette charge, comment véritablement il verra l'outil militaire. Souvenez-vous de François Hollande, auquel on reprochait, en tout cas on constatait, une certaine un réel manque d'expérience militaire.
Ouais.
Souvenez-vous la révélation qui arrive en 2013,
il arrive à Mobutu,
et il dit, je viens peut-être de vivre la journée la plus importante de ma vie politique.
De sa vie politique.
Pourquoi? Parce qu'il avait découvert à quel point cet outil militaire pouvait être précieux, important et porteur de résultats quand on est un pays qui s'appelle la France. On verra ce que Emmanuel Macron fera de cet outil.
Eh ben c'est fini. Merci. Merci à tous. Bruno Tertrais, La Revanche de l'Histoire. Son dernier opus, Précipitez-vous, évidemment, parce que tout ce dont on parle dans 7 jours dans le monde, évidemment, il faut regarder dans le rétroviseur pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, voilà, tout est expliqué. Bruno Tertrais, évidemment, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Eduardo Q était également avec nous. Merci Eduardo, journaliste américain, chroniqueur international. 7 jours dans le monde revient extrêmement vite, le week-end prochain, normalement.
BFM Business, 7 jours dans le monde.